Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Françoise Thibault.
D'un jour dans l'histoire, Canal Académie va nous parler du Premier Empire et de Napoléon. Nous avons déjà beaucoup produit d'émissions sur Napoléon, mais cette fois nous vous proposons une série de séquences sur les années 1808-1809. Pourquoi ? La plupart des spécialistes s'accordent pour dire que 1807 est en quelque sorte une apogée de l'Empire, notamment le premier semestre. Napoléon Bonaparte a tout gagné, vaincu la Prusse, c'est la paix, les caisses de l'État sont pleines. Mais bientôt, le ciel s'obscurcit étrangement. L'entrée en Espagne, notamment, au prétexte de l'extension du blocus continental, annonce des orages. 1808 commence à être catastrophique. En 1809, on se bat partout en Europe. Mais paradoxalement, ces deux années, 1808-1809, sont pour la France des années de très bon fonctionnement de toutes les réformes qui ont été mises en route et d'un certain nombre de créations qui stabilisent le système. Donc vous avez dans ces deux années une situation un peu paradoxale que nous avons trouvée intéressante. Nous allons faire un voyage dans ces deux années qui sont très riches et nous allons en aborder les différents aspects. Nous ferons ce voyage en compagnie d'éminents spécialistes, notamment de Thierry Lenz, qui est le directeur de la Fondation Napoléon, et sans lequel d'ailleurs ces émissions n'auraient pas pu prendre corps, de Jean Tullard, qui vous parlera de la noblesse d'Empire, d'Emmanuel de Varesquel, qui nous a ravis avec son ouvrage sur Talleyrand et qui vient de produire un merveilleux ouvrage sur les 100 jours, et de Jacques-Olivier Boudon, qui nous parlera des relations de Napoléon Bonaparte avec le pape. Thierry Lenz, qu'est-ce qu'il se passe précisément en 1808 et 1809 ?
Vous l'avez déjà un peu décrit, 1808-1809 sont deux années qui, pour paraphraser ce qu'on dira plus tard de l'année 1812, sont un petit peu, je dirais, les signes avant-coureurs du commencement de la fin. C'est-à-dire que on est en présence d'un empire qui a l'air solide, d'un empire qui vient de se renforcer par la paix de Tilsit, et qui pourtant, sous l'impulsion de Napoléon, évidemment, qui est un homme du mouvement, continue à essayer d'aller de l'avant, et notamment avec cette fâcheuse affaire espagnole où Napoléon, parce qu'il pense qu'il va pouvoir réaliser le changement dynastique en Espagne sans grands efforts, se lance dans une véritable aventure qui est, l'image est assez classique, qui est en fait le cancer qui va dévorer l'ensemble de l'Empire. 1808, c'est le signal qui est donné à tous les adversaires de la prépondérance française en Europe que la France peut être vaincue, puisque c'est en 1808, en Espagne, que a lieu la première grande défaite européenne des armées napoléoniennes à Bailen, où le général Dupont est obligé de se rendre quasiment en rase campagne, après pratiquement sans s'être battu, mais parce que ses troupes se sont un peu aventurées dans une sorte de désert espagnol.
Et donc, la Grande Armée n'est plus invincible.
La Grande Armée n'est plus invincible. Alors, elle a déjà été vaincue, la Grande Armée, on l'oublie parfois. La première grande défaite napoléonienne, c'est celle de Saint-Domingue, puisque une armée, quelle armée ? Une armée très puissante a été vaincue à ce moment-là par les rebelles de Saint-Domingue, mais c'est vrai que sur le continent, cette défaite de Bailen a un retentissement énorme et elle va encourager, de même que tous les embarras espagnols qui suivent vont encourager les adversaires de la France et notamment l'Autriche, puisque en 1809, l'adversaire suivant, si je puis dire, du système napoléonien va être l'Autriche avec cette campagne dont on reparlera qui est véritablement pour Napoléon la campagne des avertissements.
Le bonheur est-il passé ?
J'ignore si le bonheur est passé à ce moment-là. En tout cas, évidemment, c'est toujours très facile pour ceux qui connaissent la suite. On peut dire que après la paix de Tilsit en 1807, Napoléon a probablement manqué l'occasion d'une pause, en quelque sorte, occasion d'une pause qui, aurait peut-être permis, encore que ça puisse se discuter à perte de vue, une stabilisation des positions telles qu'elles étaient à ce moment-là en Europe et qui n'étaient pas des positions défavorables à la France, loin s'en faut, qui étaient extrêmement, extrêmement fortes. Il aurait suffi, mais il aurait suffi, de faire la paix et de s'entendre avec l'Angleterre pour que l'Empire soit solidifié, si l'on veut. Or, le système napoléonien a ceci d'assez paradoxal, c'est que, enfin, non pas de paradoxal, parce que ça s'explique, c'est un système qui ne vit vraiment que par le mouvement. Et Napoléon est en quelque sorte obligé d'avancer parce qu'il y a cette affaire que vous avez signalée, qui n'est pas une petite affaire, qui est celle du blocus continental, qui est la voie que Napoléon a choisie pour vaincre l'Angleterre, qui est donc de la priver de commerce avec le continent. Cette voie-là bien, oblige un certain nombre de prises de position, celle du Portugal d'abord, et évidemment qui entraîne ensuite cette vilaine aventure espagnole, comme Napoléon l'a dit lui-même à Sainte-Hélène.
Pourtant, lorsque nous avons préparé cette émission, vous m'avez dit deux ou trois très jolies petites choses sur cet homme du mouvement qui est Napoléon Bonaparte. Vous m'avez dit, oh, ben, il arrive à une époque de sa vie où il va avoir 40 ans, il aimerait peut-être s'arrêter et se stabiliser dans sa vie et dans ses ambitions.
Oui, mais c'est plus vrai après. C'est-à-dire qu'après la campagne de 1809, dont il faudra qu'on dise quelques mots, Napoléon va prendre la décision qui l'a retardé depuis plusieurs années, qui est de se séparer de Joséphine. Il va, à l'âge de 40 ans, épouser Marie-Louise de Habsbourg-Lorraine, qui est donc une jeune archiduchesse de 18 ans, et il va se sentir en quelque sorte porté par cette deuxième vie qui se matérialise assez vite par la naissance d'un héritier. Et c'est probablement à ce moment-là que Napoléon a peut-être souhaité vivre en bourgeois. En tout cas, les faits semblent montrer qu'à ce moment-là, il y a une sorte d'endormissement de l'empereur. Ses collaborateurs constatent qu'il arrive en retard au conseil, qu'il est beaucoup moins assidu dans les séances de travail. Et le résultat de tout ça, sur le plan international par exemple, c'est que Napoléon ne voit pas monter la guerre avec la Russie. Parce que la guerre de 1812, qui est provoquée par les Français, ou du moins par l'envahissement de la Russie par la Grande Armée, en réalité a été précédée en 1811 d'une tentative de l'armée russe de s'emparer du duché de Varsovie, que Napoléon n'avait absolument pas prévu et qui a en quelque sorte sonné pour lui comme le réveil de cette petite vie bourgeoise qu'il s'était, enfin vie bourgeoise, une vie de souverain munificent, mais qu'il avait fini par adopter à Paris.
Oui, mais il n'a plus affaire au même tsar, si ma mémoire est bonne.
Non, il a affaire au même tsar, mais si vous voulez, j'imagine que ce que vous avez voulu dire, c'est que ça n'est plus le même homme qu'en 1805 et 1807, c'est-à-dire que c'est un tsar qui, à ce moment-là, a changé, comment dire, son désir vis-à-vis de l'Europe. Il conserve les vieilles stratégies diplomatiques de la Russie, mais en plus, par son mysticisme, par son sens un petit peu débridé de la chevalerie, il se rêve en libérateur de l'Europe à ce moment-là, qui n'est plus du tout l'admirateur de Napoléon. Et puis on ajoutera aussi que le tsar n'a pas tellement le choix en 1812 parce que son pays est en quasi-faillite en raison de l'application du blocus continental. Donc il y a à la fois la raison personnelle qui tient au souverain, mais il y a aussi la raison politique, économique majeure qui est que le blocus continental ruine le commerce russe et que les Russes ne peuvent pas vivre comme ça pendant longtemps.
Ça, c'est un des aspects internationaux de cette période. Sur le plan interne de la France, que se passe-t-il ?
Alors, sur le plan interne, on a constaté après 1807 une sorte de reprise en main de Napoléon. Napoléon a été absent de France pendant un an et demi, hein, à peu près, enfin pas tout à fait, mais pendant une bonne année entre 1806 et 1807. Et comme souvent avec Napoléon, on a parfois tendance à l'oublier. Dès qu'il n'est pas là, on commence à se demander ce qui se passerait s'il disparaissait sur un champ de bataille. Alors il y a toute une série de réveils des oppositions qui se manifestent par des discours au corps législatif contre la noblesse d'Empire, une petite grogne au Sénat sur le même sujet et sur le sujet de la conscription qui commence à être extrêmement lourde à ce moment-là. La campagne 1807 notamment a été une campagne extrêmement mangeuse d'hommes, si l'on peut dire, et il a fallu rappeler plusieurs classes. Et puis, et là on est un tout petit peu peu plus tard, dans cette période-là, c'est le début de la crise économique, qui va être une crise dévastatrice dans les années 1810-1812, dont on a oublié un petit peu les conséquences parce que dans l'histoire napoléonienne, il y a cette entrée en Russie qui détourne un petit peu les regards. Mais la crise économique, dont les premiers effets se manifestent à la mi-1809, est quelque chose d'extrêmement violent. Quand vous y ajoutez le rejet de la conscription et puis une hausse de la pression fiscale qui nous ferait rêver aujourd'hui, puisqu'on a, on atteint des taux de 15%, alors que nous, on serait plutôt proche des 40% aujourd'hui, mais à l'époque, c'était quelque chose de nouveau, font qu'il y a un vrai mécontentement.
Merci Thierry Lenz.